Donc, l'évangile de Jean, chapitre 15, John chapter 15, et à partir du verset 26 jusqu'au chapitre, et puis jusqu'au chapitre 16, verset 15. John 15, 26 through 16, 15. Alors, notre thème ce matin, c'est justement un consolateur et un avocat pour moi. Dieu a pourvu un consolateur et un avocat pour chacun de ses disciples. Et donc, ici, vous allez voir qu'il est appelé le consolateur, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Donc, Jean, chapitre 15, verset 26, je lis. Quand, c'est Jésus qui parle, il est dans la chambre haute, c'est la veille de sa crucifixion, et il est avec les 11 disciples, Judas est déjà sorti, et Jésus est en train de parler à ses disciples. Il dit, quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Malheureusement, ça existe encore aujourd'hui. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez de ce que je les ai dites. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir, il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Donc, voilà, Jésus annonce son départ aux disciples. Bien sûr, ils sont attristés parce qu'ils aimeraient avoir Jésus là avec eux. Mais Jésus leur dit, croyez-moi, il vous est avantageux que je m'en aille. Mais si je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et c'est justement ce qui est arrivé, 50 jours plus tard, le jour de Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres et le Saint-Esprit est avec les disciples depuis ce temps-là. Donc ce consolateur et cet avocat, nous voulons d'abord voir qui il est, voir sa nature. Ensuite, nous verrons sa fonction. Et puis, aussi, troisièmement, nous verrons qu'il y a un autre consolateur, finalement, qui est autre, et en même temps, c'est toujours Dieu. Donc, la nature de ce consolateur, l'Esprit Saint dont il parle, Jésus, ici, il dit au verset 16, donc du chapitre 14, il dit, « Et moi, je vous prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » Le mot consolateur, bien sûr, pour chacun d'entre nous, il contient la pensée de consolation, et c'est l'un des aspects. Mais le mot grec, c'est parakletos. Para, le préfixe para qu'on retrouve dans pas mal de mots français. Parachute, hein. C'est celui qui est à côté de nous quand on chute. On espère qu'il est là, hein. Puis après, il y a un autre mot qui est paratonnerre. C'est vraiment pas, il n'est pas là pour nous protéger du tonnerre, mais plutôt de la foudre. Hein. Il faudrait l'appeler parafoudre que paratonnerre. Mais en tous les cas, il est à côté de nous quand la foudre frappe. Donc, parakletos, donc para, c'est à côté, celui qui est à côté de moi. Et kletos, c'est vient du verbe kaleo en grec, qui veut dire parler. Donc, c'est celui qui est à côté de moi, qui me parle. Donc, il me parle, parfois il me parle, c'est pour me rassurer. Donc il me console. Parfois il me parle pour me rappeler certaines choses que le Seigneur a données. Et ça m'encourage. Et parfois il parle pour moi. C'est grâce à l'Esprit Saint qu'on peut parler à Dieu. Je vais développer ça un peu plus tard. Mais donc il est l'aspect avocat, celui qui parle pour moi. Donc dans ce mot grec parakletos, eh bien, il y a l'idée de celui qui console, celui qui exhorte, et celui qui défend. Et Jésus dit, il vous est avantageux que je vous l'envoie. Hein? Jésus dit, il le définit, il dit tout de suite, c'est le consolateur, c'est l'esprit de vérité. L'esprit de vérité... L'expression qu'on l'a vue déjà, on l'a vue à la fin du chapitre 15, on l'a lu au verset chapitre 16, qui est mentionné aussi dans le chapitre 14 de Jean. Donc Jésus en parle plusieurs fois, il appelle l'esprit de vérité. Et comprenons qu'il s'agit ici bien sûr du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, hein, qui est dans cette formule, hein, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hein, donc c'est le Saint-Esprit qui fait partie de la Trinité. Ou triunité, hein, cette idée de trois personnes en une, ne cherchez pas à comprendre, c'est une réalité, et il n'y a aucune autre trinité dans le monde, dans l'existence, donc on n'a pas de référence, mais c'est ça, c'est trois personnes en une. Trois personnes distinctes, et qui en même temps font un seul Dieu, une seule personne. Et c'est une personne, parce que vous avez même remarqué ici, hein, que il nous dit que il conduit, il parle, il annonce, il glorifie. Donc c'est pas une, c'est vraiment, il a tous les verbes qui le décrivent sont des verbes que seulement une personne, hein, peut avoir. Une personne qui il est vraiment une personne. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira dans Actes chapitre 5. Pierre, l'apôtre, dira à Ananias, il dit, mais comment est-ce que Satan a pu agir dans ton cœur pour que tu mentes au Saint-Esprit? Mentir, on ne ment qu'à une personne. Hein? Vous ne pouvez pas mentir à votre frigo. Parfois on ment à son petit chien, hein, ben des fois c'est un autre problème, mais on ment surtout à des personnes, parce que c'est des personnes qui peuvent recevoir le message et puis qui soit ils en sont offensés, soit ils sont rassurés, soit on ment à des personnes, comme on peut dire la vérité à une personne, il nous parle dans Éphésiens chapitre 5, l'apôtre Paul parle du fait d'attrister le Saint-Esprit. On attriste une personne. Il n'y a qu'une personne qui peut ressentir la tristesse. Et donc, le Saint-Esprit est une personne. Et donc, nous ne voulons pas confondre avec l'enseignement des témoins de Jéhovah qui parle du Saint-Esprit en tant qu'une force seulement, une influence, mais pas d'une personne. Donc, et puis, ou bien, les musulmans dans l'islam, le Saint-Esprit, ben, c'est l'ange Gabriel. C'est pas biblique non plus. Donc, dans la Bible, il nous présente le Saint-Esprit comme étant une personne. Il nous dit dans le chapitre 14, donc Jean chapitre 14, John 14, et verset 17, verse 17, il nous dit que l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Donc le Saint-Esprit n'a pas de corps. Jésus a été incarné, il est Dieu incarné, donc il avait un corps, il s'est revêtu d'un corps. Le Saint-Esprit n'a pas de corps, et justement c'est pour cela qu'il peut être en nous. Jésus, à l'époque, il ne pouvait pas être dans ses disciples, il était seulement avec eux. Mais donc le Saint-Esprit peut habiter, demeurer dans le cœur de l'enfant de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est Dieu, et donc il a tous les attributs de Dieu, hein, tous les attributs divins. C'est Dieu se définit non pas par son apparence, mais il se définit par ses attributs. Hein, l'amour, vérité, puissance, omniprésence, omniscience, il sait tout. Il se définit par ses attributs. Et le Saint-Esprit aussi est défini par les mêmes attributs. Et tous les attributs qui correspondent à Dieu, le Père, correspondent à Jésus-Christ, le Fils, et correspondent au Saint-Esprit, donc l'Esprit de Dieu. Et donc nous devons comprendre, et parfois, dans nos églises baptistes, parfois on ne parle pas trop du Saint-Esprit, parce qu'il y a d'autres milieux qui vraiment exagèrent. Et donc, mais l'Esprit de Dieu, l'enseignement de l'Esprit de Dieu est clair dans la Bible. On trouve mention de l'Esprit de Dieu depuis la création dans Genèse chapitre 1 et jusqu'à la fin de la Bible, l'Esprit de Dieu est présent, ça fait partie de Dieu. Hein, donc ça ne doit pas rester un mystère ou un flou dans notre esprit. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons comprendre concernant l'Esprit de Dieu. Donc l'esprit de vérité, Dieu est vérité, vérité avec le grand V majuscule, hein, la vérité absolue. Vous savez, de nos jours, on n'aime pas trop le mot vérité parce qu'on n'aime pas tout ce qui est absolu. Mais pourtant, il y a quand même des vérités absolues dans la vie. Hein. Si vous voyez votre enfant en train de jouer avec la bouteille d'acide, eh bien, la vérité absolue, c'est que ça va lui brûler et lui faire des dégâts. Vous l'allez l'enlever, et même s'il n'est pas d'accord, vous l'allez l'enlever quand même. Parce qu'il y a une réalité, on ne peut pas le contourner. Vérité absolue, il y a 2 et 2, ça fait 4, hein. Ça fait toujours 4. Et vous allez rencontrer des problèmes si vous ne le respectez pas. Donc il y a Dieu est la vérité, absolue. Et la Bible est la vérité, bien sûr, elle ne se prononce pas sur tous les sujets, hein, c'est pour ça qu'on fait des recherches, on a des scientifiques, et on a besoin d'eux. Mais la Bible se prononce sur certaines choses et qui sont vraies. Alors le Saint-Esprit, dans Jean chapitre 14 et verset 17, il dit « Il demeure avec vous et il sera en vous ». Hein, donc il est dans le disciple, dans celui qui reçoit Jésus-Christ, dans son cœur, qui est venu à la croix, qui a eu ce moment devant la croix où il a reconnu son état pécheur, a compris que Jésus-Christ est mort pour lui, pour son péché, et il a, par une prière, il a réglé les choses avec Dieu, il a demandé le pardon, il s'est repenti de sa vie. Eh bien celui-là est un disciple de Jésus-Christ et l'Esprit de Dieu vient en lui. Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Il dit, je suis ici, vous aimez ma présence, je suis avec vous, mais quand je suis avec vous à Jérusalem, je ne suis pas avec ceux qui sont à Nazareth. Je ne suis pas avec ceux... Jésus incarné dans son corps était limité, il fallait se déplacer, il fallait marcher, il fallait manger, boire, dormir. Mais il dit, mais l'Esprit de Dieu, lui, viendra et il pourra être avec tous les croyants, partout où ils sont. Et il peut être présent en tout endroit. Et donc il est dit, il vous est avantageux qu'il vienne. Ce qui nous intéresse surtout ce matin, c'est sa fonction, hein, pourquoi il vient. C'est bien qu'il soit là, mais dans la présence du Saint-Esprit, il y a une fonction double. Hein, il nous a été envoyé pour deux raisons. La première, c'est d'être avec eux, et d'être en eux. Hein? Donc il y a sa présence. Et puis la seconde fonction consiste à ce principe de communication où il peut nous parler et où il peut parler pour nous. Hein? Donc il y a ces deux aspects-là. Alors on va en prendre une à la fois. Alors le Saint-Esprit est présent avec nous et en nous. Sa présence n'est pas passive, il n'est pas là comme un bibelot dans une pièce. Il est activement présent, il est vivant, il est... Donc il nous dit qu'il demeure avec vous, il sera en vous. Hein, le Saint-Esprit, c'est autre chose qu'une amulette ou un fétiche qu'on peut porter pour être protégé de quelque chose. Le Saint-Esprit, c'est autre chose qu'une main de Fatma, que certains protègent du mauvais œil. Le Saint-Esprit, c'est autre chose qu'un collier ou un médaillon qu'on porte. C'est autre chose qu'un pendentif interdit, que certains portent aussi. C'est autre chose qu'un pendentif de chakra ou de celte. S'il y en a qui, ils savent qu'ils ont besoin d'une protection. Hein? Combien de gens qui disent oh, je ne suis pas athée, mais bon, ils ont quand même bien quelque chose. Tu te protèges de quoi? Ben, je ne sais pas trop, mais bon, ça, je porte. Et il y a quelque chose dans le cœur de l'homme qui se dit, il y a quelque chose devant lequel je suis impuissant. Il y a des forces devant lesquelles je suis impuissant. Et alors... Alors chacun apporte suivant les cultures, suivant les milieux, suivant les religions à laquelle il est associé, il porte des choses, c'est pas seulement un moyen d'identifier, mais parfois c'est pour se protéger. Et on a Jésus a dit, moi je vous envoie le Saint-Esprit qui est en vous. Et quand je l'envoie, eh bien on ne peut pas vous l'enlever. Et il n'y a pas plus puissant, parce qu'il est Dieu. Et même Satan ne peut rien contre le Saint-Esprit. Vous avez des gens qui craignent les mauvais esprits, les démons, c'est des termes, ce sont des choses qui existent. Mais vous savez, mais quand j'ai l'Esprit de Dieu en moi, eh bien, je suis protégé par Dieu. Et il faut être plus puissant que Dieu pour intervenir. Ça n'empêche pas qu'on soit attaqué, mais bon, des forts imprenables sont attaqués, mais ils sont imprenables. Et celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, qui a cette relation avec Dieu, eh bien, il peut endurer des attaques, mais il est protégé. Et personnellement, hein, j'ai été dans des milieux. Mais si je vais, pas pour en tant que touriste hein, ou par curiosité, mais si je vais parce que je suis dans l'œuvre de Dieu, eh bien je n'ai rien à craindre. Hein. Jésus lui-même, quand il approchait de quelqu'un qui était possédé d'un démon, eh bien c'est le démon qui réagissait. Et c'est pas Jésus qui disait « Ah, je te vois là, caché dans cette personne-là ». Non, non, c'est le démon lui-même qui était gêné parce que Jésus était là. Hein. Donc c'est lorsque nous sommes avec le Seigneur, eh bien, même les démons sont dérangés. Regardez avec moi dans Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 1 verset 13, Éphésiens 1, 13, c'est l'apôtre Paul qui parle à ces chrétiens. Il dit, en lui, vous aussi, vous avez été, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Donc, dans un sens, il dit, lorsque vous avez entendu la parole de vérité, vous avez entendu l'évangile de Jésus-Christ, vous l'avez reçu, vous avez cru, il dit, eh bien, et vous l'avez reçu dans votre cœur, eh bien, vous avez reçu le Saint-Esprit qui est là sur vous comme un sceau. une marque de propriété. Ça veut dire que pour ceux qui savent lire, en particulier Satan, parce qu'il sait lire ces signes-là, eh bien, celui-là appartient à Dieu. Touche pas. Vous savez, ces jolis plots oranges là qu'on trouve, qui traînent sur les routes, il n'y a personne qui les ramasse. On vole tout, mais ceux-là, on ne les prend pas. Pourquoi ? Parce que dessus, il y a marqué propriété d'État. Et on ne touche pas. Ben, vous savez, nous, le Saint-Esprit qui scelle l'enfant de Dieu, eh bien, c'est Dieu qui dit propriété de Dieu. Touche pas. Bon, les plots, hein, parfois il y a des gens qui passent dessus, parfois ils sont jetés dans le fossé, mais on ne les prend pas. Et vous savez, quand Dieu marque ses enfants, ils sont protégés. On est scellés. Donc la présence du Saint-Esprit, rien que ça, par sa présence, il marque notre appartenance à Dieu. Un autre passage, Romains chapitre 8, et verset 1, Romans 8, and verse 11, verset 11, Romains 8, 11, dit: et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Il a dit, si l'esprit de Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il pourra aussi vous ressusciter. Celui qui a ressuscité Christ peut aussi nous ressusciter. C'est-à-dire, le jour, bien sûr, nous allons tous mourir. Mais il y a un jour de résurrection. Et pour ceux qui sont enfants de Dieu, l'esprit de Dieu saura reconnaître les siens et il ressuscitera. Comment est-ce que je sais que ça se fera ? Ben c'est parce que Jésus est ressuscité. Ça a déjà été fait une fois. Hein ? Pour savoir que le fruit d'un arbre est bon, eh bien, il suffit de goûter un des fruits de cet arbre. Et vous jugez tout l'arbre. Jésus était les prémices de la résurrection. Il était le premier. Il a dit, voilà comment ça se fait. Eh bien alors, on n'a rien à craindre pour le reste. Donc l'Esprit de Dieu, Jésus a dit, vous êtes avantageux par la présence de l'Esprit, par le simple fait qu'il soit là. Vous êtes protégés dans la vie et vous êtes protégés pour l'au-delà. Donc l'Esprit, il y a cette fonction de sa présence. Mais aussi, il y a le fait qu'il parle. Romains chapitre 8, vous êtes dans Romains chapitre 8, regardez au verset 15. Verse 15, Romans 8, 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. C'est-à-dire, il est là et il m'assiste pour que je puisse, quand je m'adresse à Dieu, je puisse dire Abba ou Père, hein, mon Père, notre Père, comme on l'a vu dimanche dernier. C'est lui qui me permet de le faire. Il y en a qui essaient de le prononcer. Vous savez, moi je suis le papa de certains enfants dans ce monde. Il y en a d'autres qui peuvent m'appeler « Hey papa !» Puis je ne réponds pas. Mais mes enfants disent « Papa, je tiens compte. » Parce qu'il y a quelque chose, eux ils ont un accès. Vous savez, il y a plein de monde qui peuvent dire « Notre Père », ils peuvent réciter le « Notre Père », mais... Est-ce qu'il entend ? S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, si j'ai pas reçu Jésus-Christ dans mon cœur, si je n'ai pas réglé ma vie, je n'ai pas l'Esprit de Dieu, eh bien, il n'est pas là pour que mon cri « Père » aille jusqu'au Père et qu'il l'entende. C'est étonnant comment une maman peut discerner la voix de son enfant, même dans une cour de récréation. Elle arrive à reconnaître « Ah, c'est mon enfant qui est tombé ». Si une mère terrestre peut le faire, combien plus Dieu peut entendre le cri de son enfant. Et surtout parce que nous avons l'Esprit Saint qui est là pour nous assister. Je ne suis pas en train d'inventer tout ça, hein, ce sont des textes bibliques. Regardez au verset 16, le verset suivant. Verse 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit présent en moi, hein, si je suis, il me rappelle, même si d'autres essaient de me faire douter, si, même s'il y a des choses qui se passent autour de moi qui pourraient me faire douter, l'Esprit de Dieu me rassure, dit non, tu es enfant de Dieu. C'est, vous savez, les orphelins, lorsqu'ils grandissent, il arrive un moment dans leur vie, ils aimeraient découvrir leurs parents, ils aimeraient voir ou rencontrer quelqu'un qui peut leur parler, leur décrire les parents ou avoir une photo des parents. Et même si on est né sous X, on a envie de savoir. Et j'ai pu parler avec plusieurs et... Bien sûr, il n'y a pas de preuve concrète comme ça, mais ils voient, et puis ils voient une photo, ils disent « Ah tiens, je lui ressemble. » C'est mon père. Bon, maintenant on a l'ADN, mais il y a une époque où on cherchait à savoir quelque chose. Aïe, on entend quelqu'un qui décrit la personnalité. Je comprends alors pourquoi moi j'ai cette personnalité. Parce que je n'ai pas la même que les autres dans cette famille où je vis. Je suis différent, j'ai une autre personnalité. Ah, voilà. Et c'est un rapport. Eh bien... nous avons l'Esprit de Dieu qui nous rassure, même quand des moments de doute ou quelque chose, il nous rassure, il dit non, vous êtes enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, tu as des privilèges, tu as un accès, tu as un avenir, tu as... Bien sûr, je dis, hein, devenir enfant de Dieu n'est pas réservé pour certains, c'est à la portée de chacun d'entre nous. Hein. Et donc, voilà. Regardez aussi les versets 27 et 28, donc 26 et 27, Romains chapitre 8, Romans 8, 26-27, il nous assiste aussi dans la prière, il dit de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il interprète en faveur des saints. Les saints, ce sont les croyants. Il dit, l'Esprit de Dieu est là et nous assiste à la prière. Et je ne sais pas trop comment prier, je ne sais pas trop quoi dire. Je n'ai pas l'impression d'avoir bien formulé les choses. Il dit, t'en fais pas. L'Esprit de Dieu prend ta pensée et puis il la rend présentable à Dieu. L'Esprit de Dieu est là. C'est ce consolateur, cet avocat, celui qui est là pour moi, près de moi. Jésus a dit, il vous est avantageux que je vous envoie l'Esprit Saint. Et si lui l'a trouvé avantageux, c'est que certainement ça l'était. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 16, 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthians 2, 9 through 16, je ne vais pas lire tout le passage, vous pouvez, ceux qui prennent note, vous pouvez noter le passage, mais je vais lire le verset 13, il dit, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. C'est-à-dire, il y a des pensées célestes, que l'homme naturel ne peut pas saisir. Parce que c'est un autre monde. C'est déjà entre nous, sur Terre, quand quelqu'un d'une autre culture commence à nous parler de ce qui se passe chez lui, on n'arrive pas toujours à comprendre. J'étais en Centrafrique, et puis je peux parler de la neige. Il ne sait pas trop ce que c'est. Il a vu ça sur des images, on en a parlé, mais c'est des concepts qui sont étranges. Il n'y a pas d'expérience. Vous savez, alors combien plus, si ce sont des choses divines, célestes, on ne peut pas les saisir. Mais il nous dit, l'Esprit de Dieu est là et nous aide. Et c'est pour ça que, vous dites, mais je ne comprends pas comment tu arrives à croire certaines choses. Parce qu'il n'y a pas de preuve, comment tu arrives à le croire? Ben, je peux le croire parce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi et qui m'assiste et qui m'aide à recevoir certains concepts que mon cerveau ne peut pas recevoir. Et je comprends tout à fait des gens autour de moi qui me disent « Mais écoute, moi, tu me racontes là, ça, je ne comprends rien du tout. » Il dit « Je te comprends, j'étais comme toi, je ne pouvais pas comprendre non plus, je ne pouvais pas saisir. C'est des concepts complètement nouveaux. C'est du chinois pour moi. Bon, excusez-moi pour si vous parlez chinois, mais pour moi, je ne comprends rien. » Mais, vous savez, si on a l'assistant qu'il faut, eh bien, on commence à mettre de l'ordre dans tout cela. Ce n'est pas parce que je ne comprends pas le chinois que tout ce que les Chinois font et disent, c'est des bêtises. C'est seulement moi, je n'ai pas accès parce que je ne comprends pas. C'est tout. Mais alors, l'Esprit de Saint est là, dans l'enfant de Dieu, pour nous aider à comprendre des concepts nouveaux qui nous viennent de Dieu. Et tout d'un coup, ça a un sens. Aussi, Galates chapitre 5, Galatians chapter 5, et 18 à 25, il nous parle de l'Esprit de Dieu qui nous aide à vivre une vie qui soit agréable à Dieu. Parce que sinon, la plupart des religions, ils vous laissent tout seul. Ils vous disent, voilà ce qu'il faut faire. Et puis tu te débrouilles, tu fais de ton mieux. Eh bien, Jésus-Christ, il voit les choses autrement. Il a dit, je vous envoie l'Esprit de Dieu. Et c'est lui qui va vous aider à accomplir cette vie qui est agréable à Dieu. Galates chapitre 5. Et je commence au verset 16, hein? Donc Galatians chapter 5, beginning verse 16. Il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc la chair, donc le péché. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi, donc sous les commandements de Moïse. Verset 19, or les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Voilà, ça c'est le fruit de la chair. Il dit, si vous marchez par l'esprit, vous n'allez pas faire ces choses-là. Je continue à lire. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Verset 22, et c'est important. Mais le fruit de l'esprit, donc l'influence, l'œuvre de l'esprit en moi, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Oh, il dit ça, si je pouvais avoir une épouse comme ça, ouh, ce serait beau. Hein? Ah ben bon, oui, ce n'est pas parfaite, mais vous savez, l'Esprit de Dieu est là, il travaille. Hein? Heureusement qu'il est là. Bon, l'épouse peut penser de ça d'un mari aussi, à dire, oh, si j'avais un mari comme ça, alors, ouh, là, la vie, elle serait belle. Mais écoutez, c'est parce qu'on a besoin de l'Esprit de Dieu pour agir. Et lorsque je marche selon l'Esprit, c'est-à-dire selon, hein, je vous ai dit, il est là à côté de moi, il me parle, il me rappelle des choses, il me dit, écoute, c'est plus que la conscience. Hein, la conscience, c'est un truc naturel qui est dans le cœur de chacun. Et puis après, on peut en faire attention ou pas en faire attention. Et puis plus on n'en fait pas attention, plus la voix de la conscience diminue. La première fois que je vole, je tremble et tout, et j'ai peur de... Mais bon, si je prends l'habitude de le faire, après, finalement, après, ça fait partie de la vie. Mais l'Esprit de Dieu, c'est autre chose. C'est dans le chrétien, il lui rappelle, il lui dit, tu sais, tu es enfant de Dieu, hein, c'est pas bien. Ça, tu devrais pas le faire. Voilà ce que tu devrais faire. Et l'Esprit de Dieu est près de nous, il est là pour nous aider, nous assister. Je reviens à Jean chapitre 14, John chapter 14, verset 26. Jésus parle à ses disciples. Jean 14, verset 26, il dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. » Donc il a dit, il y a un aspect aussi, il a dit, et puis nous l'avons lu dans le chapitre 16, Jésus a dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais bon, vous n'avez pas pu le saisir, déjà ce que je vous ai dit, vous n'avez pas tout saisi, et j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. » Donc je vais vous envoyer l'Esprit Saint, et puis lui, il vous enseignera le reste, ce que je n'ai pas pu vous dire encore. Et donc c'est ce qui nous permet de croire que les apôtres, Pierre, Jean, Paul et d'autres, eh bien, ils étaient réellement poussés par l'Esprit de Dieu pour nous révéler des choses supplémentaires, des compléments à l'Évangile. En fait, ce n'est pas des nouvelles pensées, mais ils développent les pensées de Jésus pour que nous puissions comprendre. Et donc, à partir des actes des apôtres jusqu'à la révélation de Jean, eh bien, tout ça, c'est venu après Jésus-Christ. Mais Jésus l'avait prévu, il l'a annoncé. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas surpris. Il a dit, le Saint-Esprit vous donnera ces choses. Et puis à la fin du livre de Révélation, de l'Apocalypse, eh bien, il dit, voilà, tout a été dit. Celui qui retranchera, celui qui ajoutera, il y a une malédiction sur lui. Hein, donc il n'y a pas de révélation depuis l'Apocalypse. Alors tous les gens qui s'amènent maintenant par la suite et qui disent, j'ai reçu une révélation de Dieu, eh bien, vous pouvez l'envoyer balader parce que le texte, la révélation est complète. Hein, la Bible est complète. Cette Bible, c'est la même Bible chez tout le monde. Hein, il n'y a qu'une seule Bible. Hein, même s'il y a différents religieux, milieux chrétiens, différentes, comme on dit, églises, mais il n'y a qu'une seule Bible. Et elle est là, elle est complète. Et Jésus l'a annoncé, il a dit. L'Esprit de Dieu vous révélera. Et c'est pour ça qu'on peut lire toute écriture est inspirée de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, il nous dit c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé. Donc, voilà, c'est une œuvre. Le Saint-Esprit, vraiment, il nous apporte énormément de choses. Hein. Et je ne fais qu'énumérer, hein, je ne développe pas, chacune pourrait être développée. Et donc, Jésus dit, je vous envoie un consolateur. C'est-à-dire celui qui est près de vous, qui vous rappelle les choses que Jésus a dit. Il dit, tu sais, tu te souviens que Jésus a dit ça, tu n'as pas à craindre. Ou bien, souviens-toi, Jésus a dit qu'il ne fallait pas faire ceci. Donc, bon, alors je me retiens. Et puis en même temps, il est là pour m'aider dans mes communications avec le Père. Et il est là pour, il me parle aussi, me rassure sur pas mal de choses. Donc, l'Esprit de Dieu... C'est vraiment le fait de l'Esprit de Dieu, c'est une grâce que Dieu nous donne. On n'est pas digne, hein, on n'est pas digne que l'Esprit de Dieu soit en nous. Hein, mais c'est une grâce de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un autre consolateur. Ben oui, Jésus lui-même, il a dit, je vais vous envoyer un autre consolateur. Ben s'il dit, je vous envoie un autre consolateur, c'est qu'il en était un. Hein? On ne peut pas dire autre quand on n'en a pas. Il dit, je vous envoie un autre consolateur, semblable à moi. Et Jésus est le consolateur, l'Esprit de vérité. Hein, l'Esprit de vérité, Jésus a dit, dans Jean 14, 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité lui-même. Dans sa prière sacerdotale, Jean chapitre 17, il dit, ta parole est la vérité. Donc, tout cela, c'est lié, c'est tout à fait normal, on l'a dit, hein, c'est la divinité, hein, donc Jésus-Christ, l'Esprit Saint, et les pensées de Dieu sont aussi la divinité même, l'expression de la divinité de Dieu. Et donc, regardez dans 2 Corinthiens chapitre 1, 2 Corinthians chapter 1, 2 Corinthiens chapitre 1, et les versets 3 à 6, il nous parle de la consolation qu'il reçoit par Jésus-Christ. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 1, je lis les versets 3 à 6, 2 Corinthiens 1, 3 à 6. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et verset 7, et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Donc, Jésus dit, Paul nous le rappelle, il a dit, voilà comment ça s'est passé chez moi, Jésus-Christ me console. Et quand je suis consolé, après, moi je vous transmets cette consolation et vous êtes consolés. Et donc il est possible, et c'est pour ça qu'il nous dit dans l'Écriture, consolez-vous les uns les autres. C'est-à-dire, mais on se console. Vous savez, je ne sais pas si vous avez jamais passé par un moment difficile, hein, j'espère que non, mais bon, si vous avez un certain âge, c'est sûr. Et alors vous avez des gens qui essayent de vous consoler. Alors ils viennent vous dire de jolies paroles, mais ça n'a aucun effet sur vous. Et ils viennent et vous disent, écoute, ça ira bien, ça ira bien. Mais basé sur quoi tu dis ça? Tu veux juste me dire quelque chose, mais toi, tu n'en sais rien si ça ira mieux. Ça, c'est de la consolation gratuite. Ça ne coûte pas cher et ça ne va pas loin. Et après, il y a d'autres personnes qui viennent, ils vous disent des choses et vous disent, ah, ça m'encourage. En général, ce sont des personnes qui sont passées par là, qui ont une parole de consolation. Ceux qui l'ont déjà vécu. Je me rappelle une fois, j'étais à l'enterrement de mon frère, qui est décédé d'une tumeur au cerveau, il avait 31 ans. Et c'est sûr que c'est un moment triste. Et puis, je me souviens, là à l'enterrement, il y a toutes sortes de gens qui ont dit des gentilles choses. Mais je me souviens, et c'est pour ça que je peux vous en parler, c'est qu'il y a une personne qui est venue derrière moi. Je n'ai même pas vu qui c'était, mais dans mon oreille, elle a dit, « Steve, je te comprends, j'ai perdu 2 frères. » Eh bien, ce qu'elle a dit, ça suffisait largement. Je n'avais pas besoin de tout ce que les autres ont dit. Parce que c'est quelqu'un qui a vécu la chose. Elle n'a rien raconté. Elle est passée par là, et elle est encore là, et elle vit, elle continue. C'est toute la consolation que j'avais besoin. Vous savez, on est consolé par celui qui a reçu une consolation quelque part. Et l'apôtre Paul dit, mais moi j'ai reçu la consolation de Jésus-Christ, il m'a consolé, il m'a rassuré. Et avec cela, j'ai des paroles à vous partager. Vous qui êtes dans la souffrance, vous qui êtes dans la difficulté, je peux vous apporter quelque chose. Donc il y a la consolation de Jésus, il nous apporte cette consolation, mais aussi nous, une fois que nous l'avons reçu, eh bien, soyons attentifs. Peut-être qu'il faudra un jour apporter de la consolation à quelqu'un d'autre. Un consolateur fidèle, c'est un consolateur qui est toujours disponible. Hein. Parce qu'un consolateur, mais qui est à l'autre bout du monde, il n'est pas très utile. Un consolateur, c'est celui qui est là quand vous avez besoin de lui. Un consolateur fidèle, c'est celui qui est là. Les dernières paroles de Jésus avant de quitter cette terre, c'était « Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Tant que tu auras besoin de moi, je serai là. Et il peut nous consoler. Il est le consolateur. Il y a un dernier passage que je veux lire. C'est dans 1 Jean. Chapitre 2, premier épître de Jean, 1 John chapter 2, et les versets 1 et 2, verses 1 and 2. 1 Jean, premier épître de Jean, chapitre 2, et les versets 1 et 2. Il dit, mes petits enfants, je vous dis ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, donc il dit, je fais un enseignement pour que vous ne péchiez point. Mais je sais que même si je dis cela, et même si vous êtes des forts, vous allez pécher. Hein. En fait, Le chapitre 1 se termine avec « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous faisons menteurs et sa parole n'est point en nous. » Donc il dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ne péchiez point, mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. » Et le mot « avocat » s'est traduit ici « avocat », mais en fait, dans le grec, le texte grec, c'est « parakletos », c'est le même mot. Hein, le consolateur, celui, l'avocat, hein, le rôle de l'avocat, c'est de parler pour moi, dans ma défense. La difficulté avec les avocats sur, dans notre société, c'est qu'ils coûtent cher. Jésus-Christ, il ne coûte pas cher. Ça lui a coûté cher. Il est mort sur la croix pour nous. Mais ce service, il nous l'apporte gratuitement. Il dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Ah, il est, en plus, il est bien placé. Il est situé juste là où j'ai un problème. Parce que mon péché, ça ne gêne pas forcément les voisins, mais ça gêne Dieu. Avant tout, hein, l'enfant prodigue, quand il est revenu, il a dit à son père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Hein, donc, le péché gêne d'abord Dieu, offense Dieu d'abord. Mais il dit, mais Jésus-Christ, c'est mon avocat qui est près de moi, mais en même temps, il est près du Père. Et il est là, il dit, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Vous savez, votre avocat sur terre, vous le payez, mais en plus, si vous avez une condamnation, c'est vous qui la subissez. Jésus-Christ, c'est lui, non seulement on ne le paye pas, mais en plus, s'il y a une condamnation, c'est lui qui subit. C'est pour ça qu'il est passé à la croix. Ça, c'est le... la protection. Donc Jésus-Christ est aussi notre consolateur et notre avocat. Nous sommes tous pécheurs par nature et nous n'y pouvons rien. Certains ont essayé de se mettre dans des bulles, appelées monastères ou couvents, pour essayer de s'isoler. Le seul inconvénient avec cela, c'est que ils sont déjà pécheurs avant de rentrer dans cette bulle. Hein, on peut créer une bulle pour se protéger contre l'infection, mais si on l'a déjà, ça ne sert à rien. Mais on met dans une bulle quelqu'un qui n'est pas infecté et on le protège de toute infection extérieure. Mais bon, nous sommes tous pécheurs. Et même si je me retire sur un sommet d'une montagne et puis je ne parle à plus personne, j'ai toujours un problème avec mon propre cœur et des pensées que je peux avoir. Hein? Je peux être dans mon lit, tout seul, tout est calme, il n'y a personne, je suis dans ma chambre, je suis le seul dans la chambre, j'entends aucune voix, et pourtant, je peux avoir des pensées qui me viennent. C'est parce que le péché est là. Hein? Et donc, autant le reconnaître et aller vers Dieu, accompagné de Jésus-Christ, et dire, écoute, je suis pécheur. Et je sais que Christ est mort, Jésus, je sais que tu es mort sur la croix pour mon péché, et tu as déjà porté la condamnation, alors vraiment, je te veux comme avocat, et puis que tu intercèdes pour moi. Je ne vais pas prendre le temps de lire le passage, mais si vous lisez dans Apocalypse chapitre 12, vous allez trouver un récit où il dit que Satan est jeté du ciel, l'accusateur des saints. Satan, c'est l'accusateur, parce que, et puis, bon, c'est sûr, hein, il montre voir Dieu, et puis il dit, tu dis, Steve, je l'ai vu, hein, je sais ce qu'il a pensé l'autre jour, je sais ce qu'il a dit, il s'est emporté, et puis voilà ce qu'il a dit, et ça, c'est ça ton serviteur. Et Jésus-Christ est là, il entend, il dit, tu sais, je suis mort pour lui, même ce péché-là était pardonné, et il l'a confessé, il a demandé pardon, donc tu n'as rien à dire. Écarte-toi. Parce qu'on a un avocat auprès du Père. Et on peut parler à Dieu. C'est ça. Alors, Jésus dit, je vais vous envoyer un autre consolateur qui sera aussi avocat pour vous. Et je serai votre consolateur et je serai votre avocat. Il vous est avantageux que je m'en aille. C'était nécessaire que Christ meure sur la croix pour nos péchés. Et c'est nécessaire que Jésus-Christ soit maintenant assis à la droite du Père, où il intercède pour nous. Ça, ce sont les grâces que Dieu a pour nous.
prions.